Donc, la Noiraude est heureuse de vous présenter une fois de plus notre émission Onde Noire. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marc de Gouvenin pour nous parler de la collection Actes Noirs chez Actes Sud. Marc, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté de passer un moment avec nous pour nous présenter cette collection qui nous propose de super surprises en ce moment. Et je vais vous faire une déclaration publique, c'est que je me régale avec les livres que vous avez choisis cette dernière année. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir pour en parler.
Ben c'est moi qui suis content d'avoir des fans, en tout cas. En tout cas, la série n'est pas si vieille que ça, parce que ça n'a qu'un an maintenant.
Voilà, donc justement...
On est au début, mais je crois que oui, les choix sont portent dans le public.
Voilà, on espère beaucoup et on espère avec cette émission avoir encore plus de fans. Quelques mots sur vous. Vous avez un parcours assez éclectique. On va pas décrire tout votre parcours parce que là, toute l'émission y passe. Au niveau de la littérature, vous avez donc commencé comme traducteur de suédois, me semble-t-il.
Oui, au début, je suis traducteur du suédois. De la traduction, je vais vous le résumer très vite. De la traduction, je suis passé au conseil, du conseil à l'éditeur. Donc maintenant, je suis depuis 23 ans fixé chez Actes Sud, où je dirige le domaine scandinave, donc de la littérature. Par ailleurs, comme je voyageais beaucoup, et c'est le voyage d'ailleurs qui m'a emmené en Suède au Suédois, j'ai démarré une série de récits de voyage qui s'appelle Aventure, dans lequel il y a des gens assez prestigieux, comme Théodore Monod, par exemple. Et puis, les voyages m'ayant emmené en Australie, je suis passé au livre australien ou du Pacifique, donc la série Antipode, dont je suis l'éditeur. Et les voyages et le vaste monde m'ont amené à ouvrir cette série plus récemment, Actes Noirs, donc du polar, du thriller, du monde entier, avec si possible, des découvertes.
Alors, en cherchant un petit peu sur Internet, je crois qu'il y a deux mots qui vous passionnent certainement le plus, c'est voyage et littérature.
C'est un mélange perpétuel, depuis que je suis gamin.
Voilà. Et le roman noir représente bien ces deux mots. Comment en êtes-vous arrivé, en fait, à vous intéresser au roman noir, si on peut parler d'un genre littérature, de roman noir?
Oui, j'aime bien le roman noir. J'ai toujours, en plus, quand on voyage et qu'on est souvent en attente dans des trains ou dans des gares, des aéroports, on lit peut-être plus facilement des polars, ça se lit, ou des thrillers, etc. Moi, je n'ai pas de préférence dans la littérature. Oui, les bons romans... avec des personnages, avec une richesse d'écriture, avec une profondeur psychologique, oui, j'aime beaucoup. Mais en même temps, j'aime beaucoup, on va pas l'appeler forcément le polar, mais le noir d'une manière générale, qui est le reflet de la société et qui a souvent une mauvaise réputation, mais qui, pour moi, devrait avoir beaucoup plus ses lettres de noblesse. C'est la société, elle est comme ça, la société. Et quand, en plus, on se penche sur des thrillers, des polars qui... des romans noirs qui viennent du Japon ou qui viennent d'Amérique du Sud ou qui viennent des États-Unis, bien entendu. C'est une manière de voyager aussi, c'est une manière d'aller chez les autres, de voir ce qui se passe dans les rues, dans les maisons, dans la tête des gens, dans les mauvais quartiers ou même dans les bons quartiers, mais de voir un peu les dessous d'une société.
Oui, effectivement, en ce moment, grâce entre autres à votre collection, on voyage beaucoup et ça nous permet de découvrir ce que on n'a pas toujours l'habitude de voir dans une certaine littérature blanche ou dans les médias, comme vous dites, dans les petites rues, dans les coins sombres. Et on découvre en particulier que les modèles scandinaves sont peut-être plus ce qu'ils étaient. On découvre plein de choses.
Vous faites allusion à la série Millennium, qui est le fer de lance de la collection en ce moment, avec deux titres. Le premier, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et le deuxième, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. Donc deux gros livres de 650 pages et je suis en train de traduire le troisième. Je finis la traduction, il va paraître cet automne, au mois d'octobre, le troisième tome qui s'appelle La reine dans le palais des courants d'air. Oui, une grosse série qui est totalement en prise avec la société contemporaine, Il est question de Millennium, qui est une petite revue d'investigation politique et sociale, d'un journaliste, de la rédactrice chef, des relations entre les gens, des relations aussi bien amoureuses que politiques autour de cette revue, mais ça va très loin autour, ça va jusqu'au mauvais et au complot, on va dire, qui fait que des choses graves se passent.
Oui, on revient en plus, dans le premier, on parle beaucoup d'histoire. Et puis, il y a ce personnage fantastique de cette jeune fille que d'aucuns prennent pour une débile mentale, alors que c'est une jeune fille très intelligente avec une opiniâtreté. C'est un des personnages qui m'a le plus touchée cette année, je dois dire.
C'est le personnage qui touche tous les lecteurs. Lisbeth Salander, c'est le chat écorché, la jeune... punk à 16 heures, hacker informatique à 16 heures, quasi autiste par moment, et qui en tout cas a subi des choses graves. Dans le premier volume, ça s'appelle « Tout le mal qui lui est arrivé ». Dans le deuxième, on en apprend un peu plus, mais c'est vrai que tout le monde adore Lisbeth. Et en même temps, on se dit « mais je voudrais la protéger ». Mais elle m'enverrait paître si je lui proposais de la protéger. Donc c'est vrai que c'est un personnage très, très fort, très dur, très, très vrai en même temps.
Et très, très proche de nous, même si c'est encore dans un pays un petit peu éloigné. Je suppose, comme vous lisez donc, le suédois, c'est vous qui avez découvert Stieg Larsson et
Ça s'est passé de manière très bizarre. C'est-à-dire que la série n'était même pas démarrée, la série Acte Noir. Et du fait que je m'occupe du domaine scandinave, j'étais de passage à Stockholm, et je trouve que l'histoire est sympa parce que ça s'est passé une nuit de décembre dans un bureau désert d'une maison d'édition où je rejoignais une amie avant d'aller à un cocktail. Elle m'a dit « Attends, juste avant de partir, je vais regarder mes mails ». Et elle a sauté en l'air, elle m'a dit « Waouh !» Alors je lui dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Agnetta, elle me dit « Mais jamais j'ai une offre pareille de Norvège. » Je lui dis « Bon, une offre pourquoi ?»« Bon, c'est une trilogie policière, mais c'est un truc suédois, je t'en ai pas parlé, etc. » Et puis, curieux, évidemment, je lui ai demandé de me l'envoyer tout de suite, non pas sous forme de livre, parce qu'il n'était pas paru, mais de fichier texte. Et j'ai lu ça, en fichier texte, ça devait faire... quelque chose comme 2000 pages sur ma table basse chez moi, et j'ai dû lire
la table
ça
est encore plus basse maintenant.
Oui, en une semaine, j'ai lu ça, je ne mangeais plus, je ne dormais plus, quelquefois je m'arrêtais parce que je tremblais trop. Enfin, c'était une découverte, quoi. C'est quand même un auteur assez étonnant, quand même. C'est un auteur qui était journaliste, très engagé contre le fascisme, qui avait monté un observatoire des manifestations du fascisme, et qui est mort après avoir rendu ses trois livres. Crise cardiaque à 50 ans. Donc il y a aussi une espèce de mystère autour de l'auteur qui perdure maintenant en Suède, parce qu'on dit qu'il y a une rumeur qui circule, qu'il y aurait un manuscrit dans son ordinateur. Et en fait, on tourne quasiment autour de... C'est comme s'il y avait un quatrième tome à Millennium, parce que l'histoire de Millennium, c'est mais qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi Lisbeth Salander est-elle pourchassée comme ça? Enfin, c'est drôle, il y a dans le réel une sorte de mouvement qui est celui des trois livres, quoi.
C'est marrant, on dirait une sorte de mise en abîme du livre dans le réel.
Exactement.
Qui se retourne sur lui-même. Alors on a été un petit peu vite en parlant directement de Stieg Larsson, qui est un de mes premiers coups de cœur, puisque ça a été un des premiers parus à cette collection. Donc justement, comment est né Acte Noir il y a, il me semble, un tout petit peu plus d'un an ou un an?
Bon, l'idée a traîné depuis longtemps chez Actes Sud, et comme je suis chez Actes Sud depuis très longtemps, il y a eu pas mal de livres qui étaient des romans policiers, qui étaient de la blanche à tendance polar ou carrément du polar. Il y en a quelques-uns qui sont parus. Je pense à Kerstin Ekman, une Suédoise qui a écrit un super gros polar sur fond social dans les montagnes qui s'appelle Crime au bord de l'eau, qui va reparaître en Babel Noir. Il y a eu des tentatives, il y a eu quelques séries, et puis ça a un peu capoté, enfin au fil des mois, ça s'est arrêté. Puis il y a 2-3 ans, Babel Noir a redémarré, mais sur le domaine français, et sous la direction de Nelly Bernard, et elle a relancé ce domaine français, mais directement en poche, dans Babel Noir. Donc il fallait faire du grand format, enfin il fallait faire. là je parle en éditeur, quoi. Il était bon d'avoir une série polar étranger, donc au départ en grand format. Et le fait que, au fil des années, j'avais tissé des contacts avec pas mal de pays ou d'éditeurs ou d'agents de différents pays a fait que, très logiquement, je prenais la tête de cette collection avec les conseils de droite et de gauche de différents directeurs de domaine. Mais, par exemple, mes contacts avec l'Australie, puisque je publie de la littérature du Pacifique dans Antipode, m'avait déjà donné dans le collimateur Andrew McGahan avec Dernier Vert qui vient de sortir, enfin qui est sorti il y a quelque temps, mais qui est un fabuleux polar. Et Andrew McGahan en a d'autres. Il vient d'en sortir un en Australie qui s'appelle Underground, qui est un thriller d'anticipation politique, qui est une véritable bombe, quoi. C'est une merveille. C'est fort. C'est, en gros, c'est la force de la ferme des animaux ou de livres prémonitoires sur la politique, quoi. Enfin, c'est fabuleux, ça.
Alors, on va déjà commencer par parler de celui qui est paru, parce qu'il est aussi assez fabuleux, Dernier Vert, oui. De Andrew McGahan. Alors, j'aime bien citer les traducteurs, parce qu'ils font un travail formidable en ce moment. Oui, donc là, c'est Pierre Furlan, le traducteur d'Andrew McGahan. Donc, ce livre se passe dans une région plutôt méconnue, ou tout au moins méconnue par moi, le Queensland.
Le Queensland, c'est le nord-est, c'est un État, parce que l'Australie est une fédération d'États. Ça, on le sait peu, quoi. On a l'impression que c'est un seul et même pays. En fait, c'est le système des États-Unis. Il y a différents États avec leur propre gouvernement et un État fédéral. Mais les États ont quelquefois des velléités d'indépendance. Hein.
Et alors, en dehors du
Queensland, c'est le nord-est. C'est toute la côte nord-est en particulier, connue pour les surfs, pour les Sunshine Coast, etc., la barrière de corail, donc c'est la partie la plus ensoleillée du tourisme australien.
Et pourtant, c'est un roman très noir, très sombre. Et ce qui est intéressant, enfin moi, je connaissais effectivement tout ce côté plage et surf, mais ce qui m'a vraiment interloqué, c'est la description du Queensland dans les années 90,
ça serait valable presque maintenant. Hein. C'est un État, le Queensland, qui est à la limite de l'extrême droite dans son gouvernement. Quoi. C'est un État vraiment très dur, qui en particulier revient sur la plupart des droits fédéraux donc accordés aux aborigènes, propriété de la terre, etc. Ils les remettent en question très très régulièrement. Quoi. C'est un gouvernement de droite très dur. Donc le scandale sur la corruption, la prohibition, etc., dans les années 80, qui sert de toile de fond à Andrew McGahan dans Dernier Vert, ça n'est plus les mêmes conditions maintenant, mais il pourrait y avoir des choses comme ça.
Hein. Oui, apparemment, ça a quand même un petit peu changé, mais ce conservatisme est assez surprenant, et c'est quelque chose, enfin, il me semble, qui n'est pas connu, et ce livre, un des grande qualité de ce livre, c'est donc de découvrir cette atmosphère dans cet État australien. L'autre grande qualité de ce livre, une des autres qualités, c'est le personnage de George, qui est un ancien alcoolique.
Et qui, point d'interrogation,
voilà.
Est-ce son dernier verre, quoi.
Est-ce son dernier verre? Mais bon, ça, justement, le roman noir, on ne va pas répondre à cette question-là. Il y a des pages sur la relation de l'être humain et de l'alcool qui sont absolument fantastiques.
Mais qui sont sublimes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, bon, l'écriture est sublime, les personnages sont dignes de Dostoïevski. Hein. C'est sur un fond de polar avec meurtre abominable, grillé dans un transformateur. Enfin, j'en dis pas trop parce que j'aimerais que les auditeurs aient l'eau à la bouche, si ce n'est le whisky à la bouche. Mais c'est vrai qu'il y a une particularité de pas mal de polars ou de films comme ça où il y a toujours un verre de whisky qui traîne ou le détective s'arrête dans un bar. Mais celui-là, Dernier Verre d'Andrew McGahan, il suinte d'alcool. Quoi.
Ah, complètement. Il y a vraiment... On voit cet homme qui se débat. Il arrive... Moi, j'étais très impressionnée de l'écriture d'Andrew McGahan qui arrive à mettre des mots sur l'indicible, en fait.
Oui, oui.
parce qu'il arrive à vraiment expliciter et donner les sentiments de cet homme qui est
un raté, enfin, qui est pas un gars brillant, quoi, qui raconte, mais c'est pas une lumière, quoi, mais c'est bien aussi, justement.
Et en dehors de ça, on peut classer ça, j'aime pas beaucoup les classifications, mais c'est vrai qu'on peut aussi classer ce livre comme un thriller, parce que l'histoire est totalement haletante. Et une fois qu'on a commencé, justement, donc on peut quand même parler de ce premier meurtre absolument horrible dans une centrale, enfin pas dans une centrale, dans un transformateur. Ouais. Après, on peut plus lâcher ce livre qui fait lui aussi.
Oui, la force du livre, c'est quasiment géographique. C'est-à-dire que ce gars, il s'est reclus dans les montagnes à l'écart de Brisbane parce qu'il a voulu quitter l'alcool, être tranquille après son scandale. Et puis il va être obligé de redescendre dans Brisbane, qui est une cuvette. C'est une grande ville, c'est chaud, c'est gluant, c'est moite, et évidemment, on sent que on a envie de lui crier à toutes les lignes, remonte, dépêche-toi, fiche le camp. Enfin, minute par minute, il est englué dans la ville de Brisbane, et ça, c'est très fort aussi.
Ouais, c'est une narration très très forte, et vraiment, on recommande chaudement ce livre. Alors, on va encore faire quelques milliers de kilomètres, encore des grands espaces avec Unity Doe.
Oui.
Et un livre qui m'a aussi beaucoup interpellée, qui s'appelle « Les cris de l'innocente ». Donc là, on est au Botswana.
On est au Botswana par un auteur botswanaise, une femme. Unity Dao est une botswanaise. Il y a toute une série de polars qui sont écrits par un Sud-Africain, si je me souviens bien, qui parle du Botswana.
Mais Alexander McCall-Smith.
Je ne cite pas... Mais en plus, j'avais oublié le nom. Mais Unity Dao est vraiment du Botswana. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme. Elle est juge à la Cour suprême du Botswana.
La première fois qu'une femme a atteint ce poste.
Oui, et puis elle a une connaissance des dossiers sur les enlèvements d'enfants, sur les disparitions, sur les meurtres rituels des petites filles. Enfin, au niveau légal, elle a essayé de... Elle travaille pour la condition de la femme et de l'enfant, etc. Mais donc, elle a écrit quelques romans qui sont, on va dire, des romans un peu saga familiale sur fond d'Afrique, mais celui-là qui parle des crimes rituels des petites filles est totalement bouleversant. Enfin, moi, je sais que j'avais trouvé ce livre parce qu'il est paru à l'origine chez un éditeur féministe en Australie. C'est là où, justement, par mes contacts, je l'avais repéré. Mais ce que je trouve absolument brillant, c'est ce réel. Là, on est encore totalement dans le réel. Ces gens qui ont de l'argent, qui ont des postes, qui sont des gens bien et qui ont famille, pignon sur rue, grosse voiture, etc. Et qui, pour progresser dans l'échelle sociale, avoir un poste dans la hiérarchie, etc., ont besoin de rites magiques et qui nécessitent, c'est vraiment ça... Le côté matériel pur, quoi, on nécessite des petites filles, donc des meurtres, donc des découpages en morceaux, etc.
Alors là,
c'est vrai que c'est poignant. C'est très bien raconté par Unity Dao, avec une écriture très simple, avec des personnages de femmes qui enquêtent 10 ans après sur un crime. Donc le crime revient à la surface, on voit qui l'a étouffé, qui sont les gens qui ont tout fait pour qu'on n'en parle pas. Et du coup, on en oublie la réalité. Enfin, ce que je trouve très bien dans ce récit, c'est qu'il y a un passage... le crime est repris par des gens qui s'en occupent, journalistes, enquêteurs, etc. Mais sur la fin, on va avoir exactement ce qui s'est passé, comment c'est, quoi, ce genre de choses. Et ça, on en prend plein
la tête. Oui, c'est impressionnant. Enfin, ça fait partie des rares livres qui décrit très bien la dualité de ces pays qui vont vers le modernisme quand même, mais qui s'en mêlent complètement avec les traditions ancestrales et ces gens très riches qui en profitent un maximum.
Oui, là aussi, il y a une série de personnages entre ces gens riches, directeurs d'école, gros commerçants, etc. Et puis ces femmes, une qui est journaliste, une qui est avocate, etc. Donc on est dans une Afrique très moderne. Le Botswana est particulièrement moderne, mais derrière, il y a des choses qui se passent. Ça, c'est, ouais, c'est,
et puis derrière, il y a un magnifique paysage de fond. Et ça, je trouve que là aussi, Unitido a bien réussi son livre. C'est-à-dire qu'elle prend malgré tout le temps. Il y a une scène qui est magnifique quand les femmes se retrouvent une nuit en plein bouche. Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Du côté de l'Okavango.
Voilà.
Ils sont connus touristiquement. Ils sont connus.
Voilà. Oui, mais la réalité est beaucoup moins connue par les touristes qui doivent faire leur tournée très vite en
4x4.
Et il y a une toile de fond magnifique. Vous parliez des personnages de femmes. Il y en a un qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée, qui m'a beaucoup touchée. C'est ce personnage de la maman, de la petite fille qui a disparu et qui a une opiniâtreté. Et il m'a beaucoup touchée parce que Unitido parle des autres femmes qui sont des femmes cultivées, qui ont fait des études, qui ont les moyens de faire bouger un petit peu les choses et de parler, de même s'imposer un petit peu. Et ce personnage très simple de femme, de mère, qui va jusqu'au bout, qui essaye de bouger son village et qui va jusqu'à provoquer presque l'enlèvement des deux infirmières.
Oui,
ce personnage est magnifique.
Oui, parce qu'à un moment, il est même question d'envoyer les flics spéciaux pour taper sur les villageois, quoi. Non, il y a vraiment un aspect étonnamment réel. Enfin, il est évident que ce livre, il est issu d'une expérience de terrain, quoi. Et justement, ça montre très bien aussi un peu que ces villageois, c'est pas une Afrique, une espèce de carte postale comme ça, sur fond de danse et de bestioles à cornes ou... Non, il y a ces villages avec des gens qui osent résister, d'autres qui ont peur de résister, d'autres qui sont complices des affaires louches qui se déroulent. Non, c'est un magnifique portrait de villages et de gens d'Afrique.
Alors, dans les différents livres que l'on vient de citer, que l'on vient d'évoquer, il y a quand même quelque chose, et c'est peut-être ça qui fait un peu l'unité du roman noir et qui fait que la collection prend un petit peu toute sa justification, c'est qu'on soit en Australie, en Suède ou au fin fond du Botswana, il y a toujours ces histoires de corruption. Et j'ai remarqué qu'elles sont particulièrement présentes dans les 4 livres que l'on vient de citer. C'est impressionnant comment, de partout où qu'on soit, on a toujours la corruption et que le roman, la littérature, tient toute sa place à dénoncer ce genre de pratiques.
Peut-être, oui, mais c'est en tout cas, bon, là, ce sont des choix personnels, ces livres-là. Il en arrive d'autres dans la série, dont j'aimerais peut-être en dire un mot des prochains.
Ce n'est pas
en tout cas un choix volontaire de parler de corruption, mais ce qui m'attire, c'est ce que je disais au début, ce qui m'attire dans le thriller, dans le noir, dans le roman noir, c'est de... Oui, la société, on peut écrire un beau roman d'amour ou psychologique ou de drame personnel. N'empêche que derrière, il se passe des choses qui sont pas belles. Et on va pas forcément dire que ça ne se passe que dans le Queensland ou au Botswana. Enfin, chez nous, c'est pareil. Il y a des choses. La société, elle est sur des fondements qui sont pas beaux. Très souvent, la barbarie n'est pas loin en dessous, la violence couve en permanence, l'allégeance des gens qui veulent obtenir tant soit peu de pouvoir de la part d'un seigneur, elle est constante, quoi. Alors ça va jusqu'à la corruption grave, mais ça peut être la simple... veulerie quotidienne chez les gens. Enfin, c'est en permanence, ça. Non.
Et donc, justement, vous avez évoqué les prochains livres. Alors, on n'a pas parlé d'un livre qui est paru au tout début, de Luis Alfredo Garcia Rosa, qui s'appelle Bon anniversaire, Gabriel.
Oui.
Si vous pouvez nous en dire deux petits mots, quand même, avant de passer au futur.
Oui. Eh bien, Garcia Rosa était justement de ces auteurs déjà publiés chez Actes Sud, avec Le silence de la pluie et Objet trouvé, qui vont maintenant paraître en poche dans Babel Noir. Là, ça vient dans les mois qui viennent. Babel Noir, donc, qui publie donc en collection de poche d'Actes Sud, Babel, qui publie des inédits français, mais va reprendre petit à petit des étrangers de la série dont je m'occupe, mais d'autres éditeurs aussi.
Ah bah, c'était une de mes questions, de savoir si ces livres allaient être réédités dans la collection Babel Noir, Andrew Magan, au fur et à mesure vont être réédités. Donc.
Oui. Là, maintenant, il y a les séries thriller noir polar existent chez Actes Sud, aussi bien Poche qui fait du français en, en, en originaux, là je trouve plus le nom.
Inédit.
En inédit.
Oui, en inédit. Et dans les étrangers, ben, beaucoup, beaucoup de choses qui viendront et d'Actes Sud et d'ailleurs.
Oui, parce que Babel Noir, j'en profite pour citer un de nos chouchous. Ça avait été un de nos coups de cœur de 2006, c'est le livre de Maurice Atia.
Alger la Noire,
qui est un très beau livre.
Bah, sur fond de drame, enfin de période sociale, quoi. La guerre d'Algérie, la fin, la catastrophe, c'est un beau fond pour une intrigue.
Et donc vous réservez la partie étrangère ou il y aura peut-être des Français dans Acte Noir ?
Dans Acte Noir, non. Dans Acte Noir, il n'y aura pas de Français. Enfin, pour l'instant, c'est pas ça. Mais ça, c'est un peu des nécessités d'édition, comme les romans étrangers sont traduits, il y a un coût, donc il faut que ce coût passe d'abord par une édition originale en grand format. Mmh. Donc c'est une logique d'édition. Voilà.
Et donc, vous nous emmenez où pour le prochain à paraître ?
Alors, deux mots sur Garcia Rosa.
Oh, pardon. Ensuite,
donc ça se passe Brésil. Brésil avec l'inspecteur Espinosa, qui est un peu philosophe à 16 heures. Et Bon anniversaire, Gabriel, est assez amusant parce qu'en gros, on a comme dans Le silence de la pluie, qui était son premier roman dans lequel le personnage intervenait, qui était commissaire à l'époque, ou qui est passé commissaire à la fin, pardon, il était inspecteur au début. Garcia Rosa est psychiatre, donc il travaille beaucoup là sur les personnages. Il y a un arrière-plan qui est celui des rues des grandes villes du Brésil, mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe dans la tête des gens avec des surprises. Quand on va c'est comme les poupées gigognes, on découvre à chaque fois un élément nouveau. Les prochains titres dans la série Actes Noirs, donc le troisième volet de la série Millennium, La Reine dans le Palais des Courants d'Air, c'est pour octobre.
Donc de Stieg Larsson,
traduit par Lena Grandbach et moi-même. J'ai un thriller d'anticipation politique, géopolitique, qui est écrit par un Indien qui s'appelle May Naktar, et le livre s'appelle Flashpoint, et qui est un scénario catastrophe, mais qui pourrait arriver dès demain matin, d'un conflit entre l'Inde et le Pakistan qui dégénère, et les deux puissances détiennent l'arme nucléaire. Donc voilà. Donc c'est vraiment mené tambour battant avec combat de commando dans les montagnes du Cachemire, percée d'artillerie lourde dans le désert du Rajasthan, combat naval dans le golfe de Karachi. Enfin, c'est un gros livre d'anticipation géopolitique.
Mais qui devrait intéresser beaucoup de gens parce qu'on entend tellement parler de ces régions en ce moment.
Oui, et là, c'est écrit par un Indien, donc c'est intéressant. Ça nous pend au nez, peut-on dire. Ça se tient, c'est-à-dire que c'est un vrai scénario géopolitique, ce n'est pas une aberration, ça se tient, c'est bien ficelé et renseigné en plus. Je vais avoir un bon livre d'une Allemande, Andrea Maria Schenkel, qui s'appelle Taneud. C'est une sorte, on va dire, c'est un meurtre sauvage de toute une famille et d'une domestique dans une ferme perdue en Bavière en hiver. Et ça, c'était juste après-guerre. Et ça n'a jamais été vraiment élucidé. C'est un peu une affaire dominicie bavaroise, on va dire. Et c'est très bien raconté par Andrea Maria Schenkel, qui l'aborde sous l'angle des différentes personnes présentes qui racontent ce qui s'est passé. Donc il y a un flou à la fin, ça pourrait être plusieurs personnes, le ou la criminelle pourrait être différentes personnes. Sinon, j'ai une japonaise, Bando Masako, avec un livre un peu mystérieux japonais qui s'appelle Les Dieux Chiens, avec des choses étranges qui se passent dans un petit village à partir d'une légende qui... Enfin, des belles choses. Ouais.
Je vois qu'il y a à la fois un voyage, je dirais, physique, quoi, géographique, et puis aussi un voyage dans les différents genres, parce que ce que vous nous décrivez est vraiment très, on va dire, éclectique, ouais. Et des histoires très différentes les unes des autres.
Et puis j'en ai deux qui vont paraître là le mois prochain, et qui sont une américaine, Cornelia Redd, avec un livre qui s'appelle Champ d'ombre, qui est un polar, elle-même appelle ça un polar WASP, c'est-à-dire la bonne société new-yorkaise confrontée avec ce qui se passe dans la campagne pas très loin de New York, chez les Rednecks, avec un personnage très attachant de femme, qui n'est pas flic, qui n'est rien, pour défendre un de ses cousins qui lui paraît injustement accusé d'eux, elle va se mêler d'une histoire pleine d'ombre, d'où le titre Champ d'ombre. Et un autre Brésilien, Tony Bellotto, avec un livre qui s'appelle Bellini et le démon. Tony Bellotto est un monsieur d'une quarantaine d'années, musicien de rock, écrivain, artiste, etc., et qui a écrit une série avec un même personnage récurrent qui est un détective qui s'appelle Bellini, et là il est confronté à une histoire de meurtre de jeune fille.
Alors, ce qui me semble voir dans tous les quelques-uns qui sont déjà parus et ceux qui arrivent, c'est qu'en plus vous êtes vraiment un découvreur, puisque toutes ces personnes-là, ce sera leur premier roman traduit à chaque fois en français.
Ah oui, ça j'y tiens. Oui, là je ne cherche pas du tout, moi, mais ça j'ai toujours fait ça dans en édition, c'est-à-dire que je ne cherche pas du tout à attirer X ou Y qui serait publié là ou ailleurs. Hein. J'ai une autre Suédoise qui va venir, qui n'a jamais été publiée en France, j'ai Rose Francisco, une Américaine qui n'a jamais été publiée, j'ai une Russe qui va venir aussi, qui n'a jamais été publiée en France, une autre Américaine, enfin là je vois ma liste, enfin, j'ai beaucoup de... un Espagnol aussi... Enfin, j'ai des gens que je suis allé chercher, mais qui sont des bons, puisque, par exemple, j'ai deux titres d'une certaine Teresa Schlegel, qui est nominée qui est dans les cinq derniers nominés du meilleur polar américain pour les Edgar Awards. L'Allemande dont je vous parlais tout à l'heure, Andrea Maria Schenkel, vient de gagner le prix du meilleur polar en Allemagne. Donc, voilà, je crois que je cherche bien.
Et vous trouvez bien, en tout cas, par rapport au livre que nous avons déjà pu apprécier. Une dernière petite remarque avant de vous remercier de nous avoir fait partager vos passions. Ce que j'ai particulièrement apprécié, j'ai évidemment été voir le site en cherchant Actes Noirs, mm-hmm. et j'ai vu que ces livres n'étaient pas classés dans un petit tiroir spécial Actes Noirs, mais tout simplement au milieu de la littérature d'Actes Sud. Et ça, c'est très appréciable pour les gens qui essayent de promouvoir ce genre. Et comme on a dit au départ, c'est souvent considéré comme de la sous-littérature et une littérature moins bonne. Et c'est bien appréciable de voir ces livres au milieu de tous les autres classés dans la littérature générale.
Oh bah ça, moi, j'y tiens. C'est-à-dire qu'on peut avoir du très mauvais polar ou du très mauvais thriller politique.
Bon, les
gares en sont pleines. Mais il y en a aussi qui sont d'énormes qualités. Enfin, et là, pour parler un peu de ce qui se passe chez d'autres maisons d'édition, moi, j'ai lu de choses très fortes ces temps-ci. C'est Tokyo de Mo Haider et Out de Natsuo Kirino. C'est des livres qui sont... bien sûr, ça parle des rues de Tokyo ou des usines d'emballage de plats tout faits comme ça. Il y a une population de femmes dans Out comme ça, mais c'est des livres qui ont une portée qui va bien au-delà du simple divertissement. Hein. C'est de la vraie littérature.
Des livres très forts. Et en fait, on va peut-être terminer comme on l'avait commencé, c'est-à-dire que ce qui est très très appréciable depuis, on va dire, une dizaine d'années, c'est qu'on a la possibilité d'avoir d'excellents traducteurs de toute langue, quoi. C'était pas évident avant. Mmh. Il nous arrivait donc toute la production anglo-saxonne. Et là, il y a un effort sur la traduction de fantastique qui est fait, et ça nous permet de découvrir une littérature très riche et d'apprendre beaucoup de choses en même temps.
Oh oui, moi là je peux citer moi ceux qui travaillent avec moi, mais depuis un moment dans différentes collections comme ça. Donc c'est vrai que je me suis fait une petite équipe sympa entre Laurent Burry, Céline Schwaller, Thierry Pittel, Lena Grambach, Stéphanie Lux, voilà. Rosemary McKinnon-Fayol pour le japonais. Enfin, c'est vrai qu'il y a des gens qui traduisent très bien. On peut s'attaquer à des livres qui sont des vrais livres.
Vrais livres. Ben, je crois qu'on restera sur ce mot-là. Marc de Gouvenin, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Et puis j'espère à bientôt.
Au revoir.
Un petit peu de musique.
Ben, l'équivalent des Dr. Fox, mais la version originale, par le Dr. Feelgood. Voilà.